Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour ces 2h30 d'infos ce soir.
Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer.
Et oui, nous sommes ensemble exceptionnellement jusqu'à 20h30, puisque vous l'avez compris, nous allons suivre les vœux d'Emmanuel Macron en direct à partir de 20h. Le président qui va devoir ménager un peu d'espoir dans une période très difficile pour les Français comme pour l'exécutif. Exercice d'équilibriste, jonglé entre réalisme et optimisme. On en parlera bien sûr avec les grandes voix et avec mon invité tout à l'heure à 18h20, Louis Alliot, le maire Rassemblement National de Perpignan. Cette année 2020, avec toutes ces mesures restrictives, a été une épreuve également pour notre vie sentimentale et affective. Dans le Club des idées d'Europe Soir, on vous parlera d'amour, célibataire ou en couple. Certains ne sont pas sortis indemnes de ces confinements successifs. Y aura-t-il des séquelles à long terme dans le monde d'après? On verra ça à partir de 19h10 dans le débat du Club des idées. Mais avant cela, l'info avec le journal présenté par Chloé Triomphe. Bonsoir Chloé.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Il est 18h, vous écoutez Europe 1.
Et s'il y a une chose qui ne change pas, même en temps de coronavirus, c'est le décalage horaire. Certains ont en effet déjà tourné la page de 2020 ailleurs dans le monde.
En métropole, en revanche, c'est dans 6 heures. Et nous serons avec des Nantais tout à l'heure pour les préparatifs.
Mais avant cela, n'oubliez pas, 20h, c'est le couvre-feu. 100 000 membres des forces de l'ordre seront déployés pour y veiller.
Et on n'oublie pas non plus les traditionnels vœux du président. Donc à 20h, tout à l'heure, ce sera à vivre en direct sur Europe 1. Emmanuel Macron devrait porter un message d'espoir aux Français après cette année plus que morose.
Et puis bien sûr le décès d'un grand metteur en scène, Robert Hossein, est mort à 93 ans. Il était aussi l'inoubliable Geoffrey d'Angélique, marquise des Anges.
Et si ce soir Neymar crée l'événement, le footballeur star a prévu une grosse fête au Brésil, la justice a ouvert une enquête.
La Bourse de Paris, elle perd 0,86% ce soir à la clôture à 5551 points.
La météo, bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Et vous nous annoncez Anissa un 1er janvier hivernal.
Oui, particulièrement sur le quart sud-est, la neige sera au rendez-vous demain aussi. Attention au verglas, là aussi très présent dans le quart sud-est. Et puis des températures bien froides et négatives demain matin. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est exceptionnel. Bah, on avait hâte. On avait vraiment hâte. Je sais pas, on est peut-être 5-6 000 personnes. C'est énorme. Aucun masque, les câlins de bonne année. Il n'y a pas de geste barrière. On se devait de faire la fête pour les autres. J'espère vraiment, vraiment que 2021 sera mieux que 2020. Bonne année à tous.
Des cris de joie qui donnent envie un petit peu, c'est vrai. C'est en Nouvelle-Zélande que ça se passe, le passage à l'an 2021 sans Covid déjà éradiqué du pays.
Et en Nouvelle-Calédonie aussi, hein, décalage horaire oblige. Les habitants ont déjà changé d'année. L'archipel a totalement échappé au coronavirus, mais au prix de mesures drastiques et de fermeture totale des frontières.
Moi, j'aurais dû rentrer en métropole cette année pour voir ma famille. Et c'est vrai que bah, du coup, ça n'a pas pu se faire. Puis bah, on ne sait pas quand est-ce que ça pourra se faire. C'est sûr qu'on a une pensée pour eux. On est loin de tout ça. On est dehors, il fait très beau, très chaud. La musique, les feux d'artifice. On s'est fait des câlins, on s'est fait la bise, comme d'habitude en fait. Hein.
Une habitante de Nouvelle-Calédonie au micro de Caroline Baudry.
Alors en métropole, Chloé, le compte à rebours, lui, court encore jusqu'à minuit. Hein.
Oui, il reste encore quelques heures pour se préparer à passer un réveillon bien différent des précédents. Et vous avez rencontré, François Coulon, un couple de Nantais sur l'incontournable marché de Talensac.
Oui, pour la première fois de leur vie, Hélène et Patrick vont clairement changer de braquet ce soir. Ils seront seulement 6 à table. D'habitude, ils sont une vingtaine à fêter le nouvel an. Pas question pour autant que le Covid assombrisse les réjouissances.
Regardez, j'ai acheté des fleurs, j'ai acheté des paillettes, donc on va essayer de décorer.
Et le menu?
Alors on a une plancha qu'on va mettre dehors, donc on va faire griller beaucoup de choses.
De la sèche, du thon, évidemment on aura des huîtres, du bon vin, du champagne, ça va bien se passer.
Menu spécial Covid ou pas?
On n'aurait peut-être pas fait la plancha un 31 décembre d'habitude.
Par souci d'être à l'extérieur, ouais. Et de ne pas être en cuisine, parce que souvent la cuisine c'est un endroit où on se rassemble, où on est très très proche. Donc là du coup, bah, la plancha ça donne de l'air en fait. On va même aussi faire un bras zéro dans une vieille brouette pour être justement le plus possible à l'extérieur, notamment au moment de l'apéritif. C'est une manière d'être à distance et en même temps de partager un bon moment. Ce sont des amis proches géographiquement, ce sont des gens qui habitent à 300 mètres de chez nous.
Ça va être quand même un super réveillon ou pas ?
Je pense que oui, ça va être autre chose, on va bien se couvrir. Ça va être un peu comme si on était à la montagne quelque part. On va ressentir le froid.
On va faire du vent chaud.
Voilà Chloé, on se console comme on peut à très basse altitude. Au Lakers, c'est le thème ici de cette soirée de la Saint-Sylvestre ô combien singulière.
Merci François Coulon à Nantes pour Europe 1.
Réveillon brouette donc à Nantes. Minuit, c'est l'orage, mais il y en a une autre qui conditionne largement cette soirée, c'est 20h bien sûr.
Et oui, avec 20h, c'est le couvre-feu et avec un très important dispositif des forces de l'ordre pour y veiller, Guillaume Bié.
Oui, dans moins de 2 heures maintenant, ce couvre-feu entrera en vigueur et les contrôles vont alors se multiplier. 100 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Présence visible des forces de l'ordre, ce sont les instructions adressées à tous les préfets par le ministre de l'Intérieur pour affirmer l'autorité de l'État en chaque point du territoire, écrit Gérald Darmanin. La particularité cette année, c'est que le dispositif a 2 priorités, lutter à la fois contre les rassemblements illicites et contre les violences urbaines du 31. Dans certains départements, la vente d'alcool à emporter est déjà interdite ce soir. La vente d'essence en jerrycan aussi pour tenter de limiter le nombre de voitures incendiées. Double mission pour les forces de l'ordre, faire respecter le couvre-feu et empêcher les fêtes clandestines qui risquent d'aggraver la situation sanitaire. Tolérance zéro, la consigne a été donnée d'intervenir dès qu'une soirée interdite sera signalée avec des sanctions possibles. Amende pour tapage nocturne si c'est un réveillon trop bruyant à domicile ou des contraventions plus lourdes si c'est une soirée organisée dans un bar, un local loué pour l'occasion ou un réveillon payant par exemple. Dans ce cas, tous les participants risquent 135 euros d'amende et l'organisateur peut même passer son jour de l'an en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui.
Les précisions de Guillaume Bié, du chef du service police-justice d'Europe 1.
Et puis c'est une tradition et Emmanuel Macron ne compte pas y déroger cette année. Hein.
Oui, ce sont les vœux aux Français du 31 décembre. Ce sera à 20h. À la télévision et sur Europe 1 en direct.
Alors
cette année, le chef de l'État, tout juste remis du Covid, veut délivrer un message d'espoir pour l'année qui s'ouvre, Aurélie Herbemont.
Oui, le chef de l'État devra jongler tout à l'heure entre un optimisme nécessaire et un réalisme tout aussi nécessaire pour ses vœux, des vœux qui seront bien sûr largement consacrés au Covid, ce qui fera de cette allocution la 9e depuis le début de la crise. Réalisme donc pour faire le bilan de cette année 2020 éprouvante pour les Français, et alors que la pandémie est loin d'être derrière nous, mais en même temps, il lui faut tracer ce soir des perspectives pour cette année 2021. L'espoir, c'est avant tout le vaccin. Emmanuel Macron en parlera, même si la campagne de vaccination démarre lentement dans notre pays, faisant l'objet de plus en plus de critiques, ce qui n'a pas échappé au président. Alors après une année marquée par la gestion de crise, Emmanuel Macron veut amorcer ce soir une année 2021 de relance. Relance économique, bien sûr, mais relance aussi de son quinquennat. Emmanuel Macron l'a déjà dit lui-même, il veut une année utile de combat, de relance et d'ambition.
On a noté, merci Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Et rendez-vous donc à 20h sur Europe 1 pour suivre en direct ses vœux présidentiels.
Et puis après le mutant anglais, la variante sud-africaine, on apprend ce soir qu'un premier cas de cette variante du Covid a été détecté en France. Ce soir à minuit, le Royaume-Uni largue les amarres de l'Union européenne pour de bon, puisque cette fois ce sera concret. Malgré l'accord post-Brexit signé hier qui fixe les rapports commerciaux, les échanges seront moins fluides puisqu'il faudra notamment remplir des formalités douanières.
Ce sont de nouvelles taxes qui font hurler la filière des vins et des spiritueux français.
Les États-Unis ont en effet décidé de rajouter 25% de taxes supplémentaires sur les importations en représailles d'un litige déjà ancien entre les géants Airbus et Boeing. Et c'est la seconde vague de taxes qu'imposent les Américains. La première avait déjà causé un manque à gagner de 600 millions d'euros pour la filière.
Europe 1, il est 18h07. Robert Hossein, c'était un visage, celui de Geoffrey de Peyrac dans Angélique, Marquise des Anges, bien sûr, mais aussi et surtout peut-être un immense metteur en scène populaire.
Il est décédé ce matin à l'âge de 93 ans. Il était passionné par ses mises en scène à grand spectacle. On se souvient des Misérables de Notre-Dame de Paris ou encore de Bénure au Stade de France. Bonsoir Angèle Châtelier. Mais c'est vrai qu'il s'est fait d'abord connaître des Français avec son rôle de Geoffrey de Peyrac avec Michel Mercier.
Et oui, dans un film sorti en 1964, il y a cette scène divine où face à la somptueuse Angélique, Robert Hossein débarrasse sensuellement une statue antique de la terre qui la recouvre.
Elle a 3000 ans. Elle a 3 jours. Elle est sans fin, comme le vrai amour.
Comme le vrai amour. Ce rôle le propulse dans la célébrité. Il donne la réplique à Brigitte Bardot, à Jean-Paul Belmondo. Mais Robert Hossein est aussi réalisateur. Retrouve et dirige Michel Mercier pour un film. Ou encore Johnny Hallyday dans Point de chute.
Mais très vite, Angèle, c'est le théâtre en fait qui prend le dessus.
Et oui, au début des années 70, Robert Hossein se lasse du cinéma, des paillettes qui l'entourent. Ce qu'il confiait à Isabelle Morizet sur Europe 1. Une décision précipitée change son destin.
Je dis au mec qui me conduisait, parce que moi j'avais pas de permis, j'ai dit tiens, prends la bagnole. Prenez tout, mes costards, tout, je vois rien. Je prends une brosse à dents, un bouquin, je crois, et puis je me suis tiré. Je suis arrivé à Reims, et j'ai dit, il paraît que vous cherchez quelqu'un pour la Maison de la Culture, André Malraux, pour faire du théâtre. Je dis, je me propose.
Il reste 8 ans au Théâtre Populaire de Reims avec un slogan « Du théâtre comme vous n'en verrez jamais au cinéma ». Son ambition, faire venir tous les publics au théâtre pour voir des mises en scène de Shakespeare, de Dostoïevski, faire interagir le public. Les spectateurs, ce sont autant d'amis que vous ne connaissez pas, nous disait-il. Et à ce moment-là, vous vous dites que vous n'êtes pas orphelin. Mais s'il laisse aujourd'hui le monde du théâtre et du cinéma l'être de nouveau.
Un portrait de Robert Hossein signé Angèle Châtelier.
Et puis nous avons appris aujourd'hui également la disparition d'Olivier Royan, figure bien connue de la rédaction de Paris Match depuis 35 ans.
Il s'est battu jusqu'au bout contre la maladie. Toute la rédaction d'Europe 1 s'associe au deuil de ses proches et de nos camarades de la rédaction voisine.
Chloé, est-ce que ce sera la nouvelle boulette de la star du foot, Neymar ?
Déjà embarqué dans une polémique après sa contamination au Covid après une fête à Ibiza en septembre dernier, eh bien, il se dit que le footballeur serait en train d'organiser un réveillon géant dans sa villa brésilienne. Rumeurs qui ont même poussé la justice à ouvrir une enquête, Marguerite Lefebvre.
Oui, car cette fête, qu'elle rassemble 100 ou 500 personnes, scandalise une partie des Brésiliens. Plusieurs plaintes ont visiblement été déposées après des rumeurs persistantes. Des invités se seraient pris en photo dans la villa du footballeur. Une société d'événementiel évoque ouvertement la présence d'au moins 150 personnes, dont des artistes qui pourraient se produire ce soir. Des rumeurs qui inquiètent à Mangaratiba, cette station balnéaire du sud de Rio. Les autorités locales ont donc saisi la justice et demandent au footballeur de s'expliquer. Alors pour l'instant, l'attaquant du PSG a simplement publié une photo de lui sur son yacht avec un ami dans le sud du Brésil. Une photo, mais pas de démenti officiel et formel. La rumeur de cette méga fête court donc toujours. Une fête qui ne passe pas dans un Brésil meurtri par le Covid. On le rappelle, près de 200 000 Brésiliens sont morts du virus. Un pays qui, par ailleurs, n'interdit pas les fêtes privées. C'est-à-dire que même si la justice démontre qu'un réveillon géant se tient ce soir dans la villa de Neymar, eh bien personne ne pourra l'en empêcher.
Merci Marguerite Lefebvre pour Europe 1.
Et puis on voulait absolument, Chloé, marquer le coup ce soir parce que quelqu'un que connaissent très très bien les auditeurs d'Europe 1 part à la retraite. Ce soir, je veux parler du correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon.
Oui, vous avez entendu son dernier reportage il y a quelques minutes. François Coulon, c'est 35 ans de Maison Bleue à couvrir l'actualité dans 25 départements. Et écoutez, en 1988, il assiste au procès du naufrage du pétrolier Lamoco Cadiz survenu 10 ans plus tôt.
Dis monsieur, dessine-moi la mer. À cette époque-là, en 1978, la marée était en noir sur le littoral breton. Il y avait du pétrole dans les gribouillis des enfants de Port-Sal et d'ailleurs, et partout les images pathétiques de ces oiseaux visqueux jusqu'à en mourir.
En 99, une tempête va traumatiser les habitants, on s'en souvient. François Coulon était sur place quand arrive l'Erika.
Le préfet maritime de Brest vient de me confirmer la présence d'une très grosse nappe de fioul de 9 km de long sur 300 mètres de large. Autant vous dire que ce que les gens de l'Ouest appellent ici deux bombes à retardement, ces deux moitiés de coque risquent bel et bien de cracher leur poison durablement sur nos côtes.
En 2010, une nouvelle catastrophe naturelle frappe la France. La faute sur mer et l'Aiguillon sont totalement submergés par les eaux.
Des victimes brutalement saisies dans leur sommeil par une eau en furie qui a pulvérisé portes et baies vitrées. Je vous rappelle donc ce bilan qui n'est pas encore définitif. Au moins 29 morts à l'Aiguillon-sur-Mer et surtout à la Tranche-sur-Mer.
Oui, parce que l'Ouest recèle aussi ses mystères. Ce 21 avril 2011, François nous parle de ce qui n'est encore qu'une disparition inquiétante et qui va devenir l'affaire du pont de Ligonnès.
Tout commence il y a 10 jours par le coup de fil du mari à l'employeur d'Agnès, 49 ans. Une mauvaise gastro, elle sera absente 2 jours. Au 3e jour, toujours personne, mais un curieux SMS. Hospitalisation légère, interdiction de m'appeler sur mon portable. Nantes, François Coulon, Europe 1.
Et voilà, c'était tout ça, hein, François Coulon. Enfin, c'est toujours tout ça. Une voix, un style, inimitable signature maison. Merci, merci beaucoup François pour ces 35 ans passés à Europe 1.
Et merci, bon vent François.
Et on t'embrasse. La tendance météo tout de suite. On vous retrouve, Anissa Haddadi. Et plusieurs départements sont en vigilance pour cette dernière nuit de l'année.
Oui, nous avons trois départements, le Tarn-et-Garonne, le Gers et les Landes en vigilance orange crue. Et puis viennent se rajouter trois nouveaux départements, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange neige et verglas dès demain matin. Alors effectivement, demain, prudence, nous aurons pas mal de gelées matinales, plus des chutes de neige à basse altitude, ce qui nous donne donc voilà, un risque de verglas sur toute la moitié nord et l'est de la France. Demain, le ciel est gris sur toute la France. La perturbation arrive dans le sud-est demain matin où le temps est agité avec des pluies fortes, même orageuses sur la Côte d'Azur et la Corse. Ailleurs, le temps est sec et gris. Attention tout de même dans les Alpes et les Pyrénées avec un risque d'avalanche. Et puis à l'arrière de cette perturbation, sur le nord-ouest, en Bretagne, en Normandie et sur les Hauts-de-France, bonne nouvelle, le soleil est de retour dans le nord-ouest demain. Mais il va faire froid, très froid pour ce premier jour de 2021. Moins 3 degrés à Rennes, moins 2 à Blois et Aurillac, moins 1 à Montluçon, 0 degré pour Paris et Lille, 1 degré seulement à Lyon, 3 à Dunkerque et Montpellier et 6 pour Marseille. Et puis demain après-midi, nous aurons exactement les mêmes températures qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 0 à 12 degrés et 5 degrés pour la capitale.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
Et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Bonsoir Louis Alliot.
Bonsoir.
Maire Rassemblement National de Perpignan, merci d'être avec nous en ce 31 décembre. À un peu plus d'une heure et demie maintenant des vœux d'Emmanuel Macron, vœux que l'on suivra en direct, je vous le disais, sur Europe 1 à partir de 20h. On est ensemble ce soir exceptionnellement jusqu'à 20h30. Alors Louis Alliot, l'année qui vient de s'écouler n'a pas été de tout repos, marquée bien sûr par cette crise sanitaire et la crise économique et sociale qui en découle. Quel message attendez-vous du président de la République ce soir ?
Bah écoutez, c'est un message de perspective sur l'avenir, parce qu'ils ont beaucoup gouverné à vue, hein. Ils ont beaucoup subi la situation, ils ont beaucoup enguirlandé, on va dire, l'opinion, l'histoire des masques du premier confinement, puis le reconfinement. Bref, il y a eu un flou artistique permanent et j'espère que le président, ce soir, va éclaircir un peu l'avenir. Parce que ce qui compte, c'est évidemment de tenir compte de ce qui s'est passé, de la gestion actuelle, mais surtout de préparer l'avenir.
Ça veut dire quoi éclaircir l'avenir ? Qu'est-ce que vous attendez de lui ?
Ben, qu'il nous dise un certain nombre de Français, de ceux qui sont privés de travail aujourd'hui, de quelle manière il compte les aider durant cette période, sur le vaccin, qu'il soit plus clair, la stratégie qui va être suivie pour une vaccination massive, puisque telle est la stratégie qui a été suivie par d'autres pays en Europe et dans le monde. Bref, on attend de savoir un peu ce que sera la France cet été, par exemple, voilà, perspective de cet été, et si déjà il peut donner un certain nombre d'indications, parce que moi je sens bien auprès de nos concitoyens qu'il y a une fatigue morale, il y a une résignation, il y a un drôle d'état d'esprit, et je ne voudrais pas que ce drôle d'état d'esprit se transforme petit à petit en colère, hein, et que cette colère n'est jamais, vous savez... on peut dire donneuse de bonnes leçons pour l'avenir.
Vous parliez d'un grand flou tout à l'heure, mais cette situation, elle est exceptionnelle. Personne n'y était préparé. On l'a vu, il n'y avait ni bonne ni mauvaise solution pour enrayer l'épidémie. Les dirigeants du monde entier ont tâtonné. Est-ce que vous auriez fait les choses différemment ?
Mais c'est pas ça. À partir du premier confinement, sur le mensonge, parce que c'est un mensonge des masques, soi-disant qui n'était pas, ça servait à rien. Puis tout d'un coup, ça sert. Il valait mieux dire la vérité. Non, on n'a pas de masque. Pourquoi on n'en avait pas ? Pourquoi il faut en faire ? Pourquoi il faut en distribuer ? Et de la même manière, sur la manière dont on a géré cette crise, bien sûr que c'est inédit. Bien sûr que c'est partout dans le monde où on voit bien que chacun cherche la meilleure stratégie possible. Mais on a aussi, nous, un hôpital qui est dans un état pitoyable. Et moi, la seule question, ça fait maintenant 3 mois que je la pose, quelles ont été les mesures prises pour améliorer les conditions dans les hôpitaux ? D'autres pays ont recruté des infirmières et du personnel soignant, d'autres pays ont multiplié les lits de réanimation, etc. etc. Très honnêtement, on a l'impression d'un gouvernement qui subit, mais qui n'anticipe pas et qui ne prend pas des mesures de protection, parce que c'est de la protection. Même si le virus est là, même si on doit le subir, essayons quand même de se donner tous les moyens pour garantir un maximum de Français la sécurité maximale.
Vous évoquez la stratégie globale. La Suède, elle n'a pas confiné. Aujourd'hui, elle prend des mesures. L'Allemagne, qui n'était que modérément touchée, l'est gravement aujourd'hui. Les États-Unis sont dans une situation dramatique. Il y a pire que nous. Et nous avons les plus fortes mesures de soutien économique.
Oui, mais oui. Après, vous parlez de l'Allemagne. Elle a moitié moins de morts que nous, quand même. Hein. Et elle a une industrie qui tourne à plein régime, ce que nous n'avons pas. Donc, ils ont su aussi... par région peut-être, et dans les mois précédents, eh bien, ils ont su aussi adapter la situation pour permettre à leur économie de continuer à fonctionner tout en ayant une protection. Mais qu'est-ce que vous voulez, le risque zéro n'existe pas. Donc nécessairement, il y aura des gens contaminés, nécessairement, il y aura des statistiques qui iront en s'accentuant, mais les gouvernements sont aussi là pour préparer la suite. Et pour la suite, personne ne voit rien venir.
Alors, Louis Alliot, vous évoquiez la polémique autour de la lenteur de la campagne vaccinale. 200 maires de tous horizons se sont engagés publiquement à se faire vacciner. Est-ce que si on vous l'avait proposé, vous vous seriez engagé, vous aussi, à leur côté ?
Écoutez, la première semaine, je dois dire que non. Hein, vu la déclaration de monsieur vaccin du gouvernement qui a dit « Oulala, nous n'avons que des communiqués de presse, mais aucune autre étude, donc il faut attendre, etc. » Donc, j'allais dire, la communication a été très mal lancée dès le départ. Mais au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que les informations, les analyses sont là, oui, je pense que, in fine, très certainement, je me vaccinerai, comme les autres. Mais j'aurais aimé que ceux qui prennent les décisions et ceux qui les ont prises très tôt soient les premiers exemples et montrent l'exemple, comme ça s'est fait aux États-Unis, comme ça s'est fait d'ailleurs en Angleterre, comme ça s'est fait partout. Il n'y a qu'en France, finalement, qu'on donne un certain nombre d'indications à faire, mais qu'on ne se les applique pas soi-même.
Ça veut dire que vous auriez aimé qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre se fassent vacciner, par exemple, pour montrer l'exemple ?
Écoutez, s'il y a une confiance totale, s'il n'y a aucun souci, oui, effectivement, en tant que chef d'État, chef du gouvernement, ça vaut aussi pour les membres du comité scientifique et de tout un tas de gens qu'on voit à la télévision, c'était à eux aussi à dire à l'opinion, regardez, voilà, c'est sans risque, faites-vous vacciner, et je suis persuadé que les Français ne sont pas des idiots et qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas dans cet état d'entre-deux où 50% sont pour, 50% sont contre, et j'allais dire une majorité est attentiste.
Voilà, bon, en l'occurrence, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a été contaminé, donc il y a un petit délai avant qu'il puisse éventuellement se faire vacciner. Mais on se souvient, Louis Alliot, que vous étiez un militant de l'hydroxychloroquine. Là, on n'avait pas de recul, hein, pas assez de recul. Aujourd'hui, on en a quand même beaucoup plus sur les vaccins. Toutes les études ont été validées par les agences de santé. Ce n'était pas le cas pour la chloroquine.
Écoutez, la chloroquine aujourd'hui, en tout cas dans toutes les études, elle donne apparemment des résultats plutôt positifs. Donc, et moi, tous les médecins que je connais, quand ils ont été infectés par le virus, se sont appliqués le protocole du docteur Raoul. Alors on en pense ce qu'on veut, on peut dire que ça ne marche pas.
On entend aussi beaucoup de médecins qui disent le contraire. Bon, enfin, c'est pas
oui, d'accord, mais encore ce matin sur une chaîne de télévision, il y avait une dame qui est rhumatologue, qu'on a vu tout au long de l'épidémie, qui était pourtant très réticente au protocole Raoul, qui a dit d'elle-même, oui, finalement, si ça ne donnait pas de résultats, en tout cas, ce n'était pas quelque chose qui pouvait nuire à la santé des Français. Donc, il faut aussi faire confiance aux médecins. Et on a voulu, et le gouvernement, l'administration, la haute administration, a voulu gérer en direct cette crise, alors que les médecins, honnêtement, parce qu'ils connaissent leurs malades, parce qu'ils connaissent la médecine, étaient suffisamment à même de prescrire certains antibiotiques ou l'hydrochloroquine, s'ils le souhaitaient ou pas.
Le gouvernement s'est quand même appuyé, Louis Alliot, sur l'avis du Conseil scientifique.
Oui, mais in fine, ils l'autorisent, vous comprenez. Ils nous ont fait toute une histoire pendant le premier confinement sur cette chose-là, tout en faisant la promotion du Remdesivir, qui lui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, on se rend compte que ils ont libéré la prescription et les médecins peuvent à nouveau, en toute responsabilité avec leurs malades, prescrire ce qu'ils veulent. Et c'est bien là le serment d'Hippocrate et la liberté de pouvoir prescrire pour les médecins.
Louis Alliot, quelle est la situation sanitaire aujourd'hui dans votre ville de Perpignan ?
Écoutez, on est plutôt en dessous des indicateurs des fameux 20 autres départements. On ne peut pas dire qu'il y ait de rebond, on est sur un plateau. Mais pour l'instant, on va être attentif à la semaine qui arrive et aux 15 jours qui arrivent pour savoir si cette période de fête a favorisé l'épidémie ou pas.
Et je crois que les stocks de vaccins anti-Covid sont arrivés dans votre ville hier.
Ils sont arrivés hier et je crois que nous avons eu d'ailleurs la première vaccination hier ou ce matin. Mais là aussi, bon, ben voilà, on a du mal à comprendre. Les personnes à risque, évidemment. Pourquoi pas le personnel soignant? Ça reste quand même une énigme pour beaucoup. Moi, ce que je souhaite dans ce débat, vous savez, c'est qu'on est quand même libre en France de penser ce que l'on veut. Il y a des questions qu'on doit se poser parce qu'il y a des concitoyens qui se les posent. Et on ne peut pas comme ça répondre par « oh là là, les complotistes, les je ne sais quoi ». Non, il y a des questions, il faut y répondre. Et certains sont pour, certains sont contre. Ce qu'il faut donner, c'est il faut favoriser un climat de confiance. Or là, si vous voulez, c'est manichéen. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Ben, écoutez, moi, je suis plutôt un attentiste. Je regarde, je m'informe. La communication, les analyses sur ce fameux vaccin sont de plus en plus nombreuses et apparemment, ça se passe plutôt convenablement. Donc moi, je n'ai aucune raison à ce jour de dissuader quiconque, même les personnes à risque, de se faire vacciner.
Encore un mot, 100 000 policiers et gendarmes sont mobilisés cette nuit pour le respect du couvre-feu. Est-ce que vous avez pris des mesures spécifiques à Perpignan ?
Non, le préfet, lui, a pris un arrêté pour interdire la vente d'alcool depuis hier soir, hein, jusqu'à demain matin. Il y aura des forces de l'ordre et la police municipale est aussi mobilisée cette nuit. Voilà, il n'y aura pas plus, je pense, de mesures, beaucoup plus de barrages organisés par la police nationale et par la préfecture.
Et vous craignez des débordements ?
Oh, il y aura très certainement des personnes qui sont au-delà des limites. Mais vous savez, là j'ai un peu de mal à considérer qu'on est très dur avec l'ensemble des Français sur ces questions de respect du couvre-feu, etc., etc. Alors que je peux vous dire que dans beaucoup d'autres secteurs de l'activité sociale, eh bien l'État est bien moins regardant. Et c'est ça qui est aussi dramatique dans la gestion de cette épidémie. C'est-à-dire que vous avez une certaine voyoucratie qui continue à dealer, qui continue à être dans les rues, qui continue à faire ce qu'elle veut. Bon, ben elle est cantonnée, dans certains quartiers. La police n'y va pas, tant mieux. Mais la loi ne s'applique pas. C'est bien le problème.
Louis Elio, vous allez faire quoi ce soir, vous ?
Eh bien, écoutez, je vais dîner tranquillement avec ma compagne. Et puis, je fêterai le nouvel an à tous mes amis par téléphone.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Louis Elio, maire Rassemblement National de Perpignan, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. On vous souhaite un bon réveillon et je rappelle que l'on va suivre en direct à 20h les vœux du président de la République juste avant votre grande soirée de réveillon avec Émilie Mazoyer.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
Europe 1, pratiquement 18h30, c'est l'heure du rappel des titres avec vous, Chloé Triomphe.
À l'instant, Olivier Véran vient d'annoncer que les soignants de plus de 50 ans pourraient se faire vacciner dès lundi. Annonce faite dans un contexte de polémique sur la lenteur de la vaccination en France. Ce matin, c'est la très respectée Académie nationale de médecine qui a rajouté son petit caillou. Elle suggère de passer à la vitesse supérieure en estimant que les précautions prises sont excessives. La France a procédé à ce jour à moins de 200 injections contre 600 000 au Royaume-Uni, 78 000 en Allemagne et 8 300 en Italie. Dans quelques heures, ce sera le réveillon sous couvre-feu à partir de 20h, avec dans les rues pas moins de 100 000 membres des forces de l'ordre pour y veiller. Les vœux d'Emmanuel Macron, ce sera à 20h également. Ils seront placés sous le signe du coronavirus. Le chef de l'État veut apporter un message d'espoir à ses compatriotes.
Et ce sera en direct sur Europe 1.
Et puis la mort d'un grand metteur en scène, comédien, passionné de théâtre. Robert Hossein est décédé ce matin à l'âge de 93 ans. Le visage de Geoffrey de Peyrac dans Angélique, Marquise des Anges, c'est lui. Mais Robert Hossein, c'est aussi l'auteur de super productions comme Les Misérables, Notre-Dame de Paris ou encore Ben-Hur. Il est décédé des suites d'un problème respiratoire. Et puis, ce soir à minuit, le Royaume-Uni largue les amarres pour de bon de l'Union européenne. Cette fois, ce sera concret. Malgré l'accord post-Brexit signé qui fixe les rapports commerciaux, les échanges seront moins fluides puisqu'il faudra notamment remplir des formalités douanières.
Merci beaucoup Chloé Triomphe. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. Et on fait un point sur la météo. Anissa Haddadi avec des vigilances en cours. Imprudence pour les prochaines heures.
Oui, nous avons 3 départements placés en vigilance orange cru, toujours hein, depuis plusieurs jours, les Landes, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Il va pleuvoir encore demain dans ces régions, donc attention aux inondations. L'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont placés en vigilance orange à partir de demain matin. Vigilance orange, neige et verglas, puisqu'effectivement dans les Alpes, sur la vallée du Rhône et le bassin méditerranéen, demain la neige va tomber à basse altitude et puis avec les températures négatives que nous allons avoir dans les prochaines heures, cela
cela va créer effectivement du verglas sur la Côte d'Azur et la Corse. Attention, ce sont de fortes pluies que nous attendons pour la journée de demain. Un temps gris partout ailleurs. Et puis, allez, tout de même, une note positive dans cette météo du 1er janvier. En Bretagne, en Normandie, sur les Pays de la Loire, donc sur le quart nord-ouest du pays, à l'arrière de la perturbation, c'est le retour du soleil avec de belles éclaircies demain après-midi. Mais nous aurons toujours ces giboulées sur les côtes de la Manche. Les températures, elles sont en baisse. On va bien le sentir demain matin avec moins 3 degrés à Rennes, moins 2 au Mans et à Poitiers, moins 1 degré à Rodez et à Caen, 0 à Paris, 2 degrés à Nîmes et Avignon, 4 à Biarritz et 7 pour Toulon. Et puis dans l'après-midi, c'est stationnaire avec 0 à 12 degrés sur l'ensemble du pays.
Merci beaucoup Anissa. À tout à l'heure 19h pour un nouveau point météo complet.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Et à 18h31, on ouvre maintenant le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés Michel Cotta, Claire Chartier, rédactrice en chef de la rubrique Idées et débats à l'Express, et l'historien Jean Garrigue. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
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 Française, Français, mes chers compatriotes, comme chaque année, le président de la République va donc prononcer ses mots dans un peu plus d'une heure maintenant, une heure et demie, en introduction de ses traditionnels vœux aux Français pour 2021. Des vœux qui auront bien sûr une tonalité particulière cette année, tant l'épidémie de coronavirus a bouleversé la vie du pays. Jean Garrigue, est-ce que vous avez d'abord le souvenir d'une année aussi terrible depuis la Deuxième Guerre mondiale que celle qui s'achève ?
Alors, d'abord, les vœux, ça date du général de Gaulle. Auparavant, soit on ne faisait pas de vœux, soit on a commencé à en faire. C'était au début du mois de janvier. Donc, c'est plutôt par rapport à la Ve République. Mais là, effectivement, par rapport à la Ve République, ce type de drame national qu'est une pandémie, on ne l'a jamais connu. Et ces vœux, c'est vrai, vont intervenir dans un moment tout à fait particulier, quelque chose qui, effectivement, aujourd'hui, sous la Ve République et même avant, n'a jamais été connu. Et donc, il doit faire face à exprimer un discours qui est un peu différent, en tout cas dans un contexte très différent de ceux qui l'ont précédé. Ça, c'est une certitude.
Claire Chartier, l'histoire retiendra qu'Emmanuel Macron a été le président du Covid. Il y a mieux comme trace à laisser dans l'histoire.
Absolument. Mais pour revenir juste un instant peut-être sur le passé, il y a peut-être un président avec lequel on pourrait comparer Emmanuel Macron dans ce moment présent, c'est Valéry Giscard d'Estaing. On l'a déjà comparé pour son côté moderne, mais en 1979, Valéry Giscard d'Estaing doit faire face au choc pétrolier et il tient vraiment un discours de vérité très churchillien aux Français qui vraiment, quand on le relit, est assez impressionnant. Ça s'adresse quand même à un horizon assez, assez sombre et donc il y a quand même quelques échos par le passé. Oui, c'est une année particulièrement difficile.
Et c'est ce genre de discours, comme celui de Valéry Giscard d'Estaing, qu'il devrait prononcer ce soir, Emmanuel Macron,
Valéry
Michel Cotta.
Valéry Giscard d'Estaing avait prononcé des vœux particuliers, puisqu'il avait commencé, je me rappelle encore sa phrase, « Le monde ne sait pas où il va, mais s'il le savait, il serait terrifié, enfin, ou terrifié ou un autre. »
C'est apocalyptique.
C'est effectivement une façon, ce qui était apocalyptique, et ce qui était presque démesuré avec la crise de l'époque, mais ce qui ne serait pas démesuré avec aujourd'hui. La crise d'aujourd'hui. Mais enfin, des vœux, c'est quand même fait pour remonter un peu le moral,
si on peut. Donner un peu d'espoir, oui.
Donc, il sera sûrement question d'espoir quelque part, d'espoir ténu peut-être, mais d'espoir.
En tout cas, cette pandémie, elle a paralysé quand même cette année pour Emmanuel Macron, pour la France. Ce devait être l'année du redressement du pays, de l'unité retrouvée de la nation après 2019 qui avait été déjà compliqué. Écoutez d'ailleurs ce que disait le chef de l'État il y a tout juste un an.
En ce moment de fête de fin d'année, je tiens à saluer nos compatriotes qui, ce soir encore, sont à la tâche. Veillent sur nous, afin que nous puissions vivre ces quelques heures dans la tranquillité. Nous en avons tous besoin. Car durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve.
Nous avons vécu des moments d'épreuve, disait donc il y a tout juste un an Emmanuel Macron. C'est vrai qu'en 2019, il y a eu pas mal de chocs, l'assassinat de policiers à la préfecture de police de Paris, des catastrophes naturelles, l'incendie de Notre-Dame de Paris, la mort de Jacques Chirac aussi. Mais quand il a prononcé ces mots, Emmanuel Macron, il ne savait pas encore ce qu'il attendait, évidemment. On dit que gouverner, c'est prévoir, sauf que là, il a fallu gouverner face à l'imprévisible. Jean Garrigue.
Oui, ça c'est quelque chose, mais auquel sont ont dû malheureusement se préparer, tous les chefs d'État, et qu'ils ont connu, puisque par exemple en 2015, François Hollande doit construire son discours de vœux autour de qui s'était passé des attentats terroristes. Donc ça, c'est là c'est une pandémie. Il y avait eu toutes les querelles sur la réforme des retraites l'année dernière, et puis deux ans plus tôt c'était la crise des gilets jaunes. On peut pas dire qu'Emmanuel Macron a été épargné. Non. En revanche, et pour rebondir sur ce que disait Michel Cotta, c'est vrai que il y a quand même une dimension d'espoir qui peut sortir de ce discours, puisque on a a priori une solution à cette crise pandémique qui est la vaccination. Et donc c'est cet élément-là qui, à mon avis, va être assez central dans son discours, parce que on sait bien que la vaccination, elle pose un problème. On pense que la France est un petit peu en retard, et même très en retard par rapport à d'autres pays. Donc là, il va y avoir un élément clé, parce qu'il faut que, à travers cet élément d'espoir que peut-être la vaccination, eh bien, il développe quelque chose qui soit propre à nous rassurer, et éventuellement à nous faire passer dans quelque chose de plus positif.
Et ça va être aussi un exercice délicat. Il va falloir trouver les bons mots face à la défiance des Français. On sait que bon nombre d'entre eux n'ont pas du tout envie, pour l'instant en tout cas, de se faire vacciner. Michel Cotta.
Oui, il faut s'adresser à ceux qui ont envie de le faire.
Oui, bien sûr.
Aussi. Parce qu'à force de ne s'adresser qu'à ceux qui n'ont pas envie de le faire, et à force de considérer que oui, c'est un problème en France où 50% des gens ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur droit. Mais l'espoir doit pouvoir exister pour les autres. Et puis il faut insuffler presque de l'enthousiasme. On voit bien en Amérique, la vice-présidente américaine, le président américain en profitent de se faire vacciner pour appeler à l'espoir. Mais à partir du moment où effectivement en France, on a l'impression qu'il y a un ralentissement qu'on ne comprend pas bien, et je vois qu'Olivier Véran vient de dire que ça ira peut-être
que
plus vite pour les soignants.
Que ça va accélérer, oui, en direction des publics prioritaires.
Donc, l'espoir doit être tangible, plus évident que ce qu'il est en ce moment.
Effectivement, c'est important. Olivier Véran vient de dire que ça allait s'accélérer pour la possibilité pour les soignants de plus de 50 ans de se faire vacciner dès lundi. Donc ça, c'est quand même un changement de pied. Jusqu'à présent, on n'avait pas tenu du tout ce discours. On en était resté aux personnes prioritaires dans les maisons pour personnes âgées. Comment ça se fait qu'il dise ça, Olivier Véran, juste avant justement les vœux d'Emmanuel Macron, Claire Chartier?
Oui, c'est peut-être effectivement une piste. Je pense de toute façon qu'ils vont devoir peut-être un peu changer de pied, en effet, parce que ça semble pas forcément très fondé de tarder autant. Le problème il y a deux problèmes. Il y a effectivement un trait culturel français qui insiste toujours sur le négatif. Et là, on le voit dans cette communication, je rejoins complètement Michel, c'est qu'on ne parle que des difficultés que pose ce vaccin, alors qu'il faudrait quand même insister sur le fait qu'on risque beaucoup plus à ne pas se faire vacciner qu'à se faire vacciner. Enfin, il y a une différence abyssale. Donc c'est vrai que centrer la communication sur ça, ça serait déjà bien.
Plutôt que sur se faire vacciner, c'est aussi pour les autres ? Sur la solidarité
et ça
face
aussi.
Au
alors ça, on en parle très 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 peu. Oui. Ça, c'est certain. Comme d'autres aspects, d'ailleurs, on ne parle pas non plus du fait que le vaccin, il n'est pas distribué aux pays pauvres en ce moment, et c'est que les pays riches qui le monopolisent. Bon, ça, c'est un autre aspect. Mais il y a un trait culturel, il y a un pessimisme foncier sur lequel Emmanuel Macron là peut intervenir et peut-être peu contrecarrer dans son discours. On est vraiment, et ça date pas d'aujourd'hui, mais des travaux d'une économiste. Montrait il y a quelques années que être français vous donnait la probabilité 20% de plus de probabilité de se dire de ne pas se dire heureux. Imaginez, à condition de sociale égale. Donc c'est quand même un trait culturel. Donc là on est plein dedans,
et on
en plus
pas
avec une pandémie épouvantable et inédite. Donc là effectivement on plonge. Et je pense que l'image d'Emmanuel Macron telle qu'il l'avait vendue lors de sa campagne, de quelqu'un de vraiment moderne, ouvert sur l'avenir. Et là, il peut encore la mobiliser. On le voit au vu des sondages, parce qu'il a quand même gagné 7 points dans les sondages en une année, ce qui est quand même pas rien. Et que là, cette situation, cette pandémie, lui donne l'occasion de montrer, de corriger en fait.
Ce qui était cette image.
Son grand talon d'Achille, c'était son manque d'empathie, de fibre sociale, de proximité avec les gens. Là, il est en train de montrer qu'il est capable de mobiliser les ressources nécessaires pour venir au secours des Français. Donc, même pour lui, si vous voulez, ça le rend, je pense, beaucoup plus crédible. Et donc, dans sa prise de parole, il y a tout ça derrière qui se joue.
Ouais, ceci étant, on est toujours, quand on est enfant, effectivement, on demande pourquoi on est le seul pays à manquer à ce point-là de confiance. Tout ce que disent les hommes politiques peuvent se retourner contre eux. Et au fond, on voit les mêmes gens qui disent mais alors, pourquoi est-ce que le pouvoir politique ne s'implique pas davantage? Pourquoi est-ce qu'il y a... Et les mêmes gens disent mais comment ils s'impliquent? Mais pourquoi sont-ils les premiers? En quoi doivent-ils les premiers à être vaccinés?
Si la scène, d'un jour à l'autre, en plus,
si
en
la
moment.
Scène d'un Joe Biden se faisant vacciner, passer en France avec le président de la République, je suis persuadée
qu'il y aurait
beaucoup de gens qui auraient dit c'est un passe-droit. Donc, c'est en effet compliqué, mais ça rend encore plus compliqué son discours, ses voeux de ce soir. Alors, il paraît qu'ils seront plus rapides
On verra ça, puisqu'on va les suivre en direct sur Europe
1. C'est ce qu'on dit, mais on sait aussi que il est toujours plutôt long, Emmanuel Macron, lorsqu'il
parle. Il paraît que c'est 15 minutes, donc, je crois, après ce que j'ai entendu. Je ne suis pas dans les secrets de l'Élysée, on verra ça, puisque c'est vœux, je vous rappelle qu'on va les suivre en direct à partir de 20h. En tout cas, ce sera un exercice évidemment très compliqué. Tracer des perspectives, c'est difficile, parce que Emmanuel Macron, il s'est retrouvé par la force des choses dans la situation d'un gestionnaire et non pas d'un réformateur pendant cette année 2020, Jean Garrigue.
Oui, lui dont le programme s'intitulait Révolution. C'était donc par essence un programme de rupture, de transformation, de réforme, a été totalement contraint finalement à une posture de réaction face aux gilets jaunes. Alors quand il a essayé la réforme des retraites, on voit les résultats que ça a donné, la crise sociale terrible que ça a donné, et puis évidemment la pandémie qui engendre une crise économique, une crise sociale, une crise de confiance aussi, une crise morale terrible chez les Français. Donc c'est vrai que lui qui avait annoncé les jours heureux, il faut s'en souvenir, cet été, qui pensait qu'on pourrait rebondir, eh bien le voilà contraint justement à gérer une nouvelle phase de la pandémie, peut-être même un troisième confinement qui pourrait venir. Et ça rend effectivement dans un discours de réveillon comme ça, il y a un discours présidentiel, il y a toujours trois éléments qui sont l'empathie. Ça, c'est quelque chose de très important et quelque chose qu'il a appris à faire. Peut-être qu'il ne faisait pas suffisamment au départ. Il y a la notion d'unité nationale qui est fondamentale et qui n'est pas évidente dans un pays fracturé comme le nôtre. Et puis, il y a l'espoir dont on parlait tout à l'heure. Et là, c'est évidemment assez difficile pour lui de parler des jours heureux alors qu'on est encore dans cette pandémie. Donc, c'est un exercice d'autant plus subtil auquel il devra se livrer, trouver des mots extrêmement précis et entraînants, je veux dire, pour justifier en quoi la vaccination peut précisément nous ouvrir sur quelque chose de plus positif et comment il peut préparer la reprise économique, comment il peut préparer justement les jours heureux qu'il avait annoncés il y a quelques mois.
D'autant que ce soir, il sera écouté par des Français qui seront souvent soit seuls chez eux, soit à 6 maximum pour ce réveillon. Ça va être un grand écart entre la solennité et le concret. Ça va être
C'est toujours un peu le cas.
Plus que d'habitude,
tous les vœux des présidents s'adressent effectivement aux gens qui sont seuls, davantage aux gens qui sont seuls devant la télévision.
Enfin là, il y en a beaucoup qui sont seuls chez eux à cause du couvre-feu et des mesures imposées. Il y en a plus que d'habitude.
Dans un état d'angoisse. Mais surtout, si on se reporte aux vœux de l'année dernière, c'était quand même des vœux formidablement optimistes. La pandémie n'avait pas tout à fait commencé. Elle s'apprêtait à commencer, mais elle n'était pas là. Et les vœux, c'était le chômage, on est en train de le faire baisser. La croissance, elle est en train de repartir. Et donc, évidemment, quand on a ces messages-là à dire, c'est sûrement plus facile pour un président de la République, même devant des gens qui sont seuls devant leur téléviseur.
Poste de radio, Michel.
Là, évidemment, mais c'est beaucoup plus difficile. Mais je crois qu'on...
Là, il y a un point positif, c'est que, dont on parle peu d'ailleurs, c'est le rebond de l'économie, la bonne résistance de l'économie française. En fait, la croissance a connu un rebond,
finalement, assez contre-intuitif.
Ça, c'est effectivement, ça mérite d'être souligné. C'est en tout cas un argument qui pourra
utiliser peut-être ce soir. Effectivement,
18%, je crois.
Les perspectives économiques ne sont pas si terribles que
non,
ce qu'on
absolument. Et comparé aux autres pays, la France s'en tire plutôt bien. Donc, il y a quand même des éléments qu'on peut revenir à ce qu'on disait auparavant.
Y compris, si on veut donner des éléments d'espoir aussi, c'est l'espèce de transformation qui est certaine du monde du travail.
Oui.
Par exemple, le télétravail, etc. Tout ça, ce sont des éléments...
D'agilité et de souplesse, peut-être, pour l'année auparavant.
On a l'impression que le travail ne sera plus jamais ce qu'il était. Et pourtant, c'est vrai que la situation économique est moins mauvaise
que ce que l'on pouvait redouter.
On
va poursuivre ce débat dans un tout petit instant. Les grandes voix, restez avec nous. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Il est 18h46 et on poursuit ce soir notre débat des grandes voix avec toujours à mes côtés Michel Cotta, Claire Chartier et Jean Garrigue. Alors, je voudrais vous lire, messieurs, dames, ces tweets qui arrivent en cascade à l'instant d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, alors qu'on est à un peu plus d'une heure maintenant des vœux d'Emmanuel Macron, puisque c'est de ça que l'on parle ce soir. Donc, on évoquait tout à l'heure la stratégie vaccinale qui a été extrêmement critiquée et sur laquelle le président devrait revenir. Alors, visiblement, son ministre le précède. Alors, il écrit « Certains d'entre vous questionnent le rythme de la vaccination. Soyez rassurés, cette campagne vaccinale, elle va bientôt prendre de l'ampleur. Le vaccin est une chance historique d'en finir avec cette pandémie. Il annonce que la campagne de vaccination va s'accélérer en direction des publics prioritaires avec la possibilité pour les soignants de plus de 50 ans de se faire vacciner dès lundi. Comment expliquer que le ministre de la Santé, comme ça, anticipe sans doute ce que devrait annoncer aux Français Emmanuel Macron dans une heure ?
Il vaut mieux anticiper qu'être contre. Dit.
Bien sûr, il aurait pu laisser la primeur au président de la République.
C'était plus difficile, c'est une première annonce. C'est vrai que si le président de la République avait dit le contraire de son ministre de la Santé, ça aurait quand même été... alors, le rythme du ministre de la Santé est tardif, oui. Le revirement est tardif, mais peut-être c'est justement là-dessus que rebondira.
Emmanuel Macron, au contraire, ça peut même au contraire ouvrir vers le discours
ouvrir
d'Emmanuel
la porte au discours d'Emmanuel Macron, Olivier Véran qui parle de transparence, qui dit que toutes les informations sont rendues disponibles en France, le nombre de vaccins délivrés, la tolérance, l'efficacité. Il y a déjà ce discours, on commence à rassurer énormément les Français et c'est ce que devrait poursuivre certainement tout à l'heure Emmanuel Macron.
Il faut dire que c'est quand même un job pas facile, hein, faut avouer. D'une semaine à l'autre, en fait, les dirigeants sont pris entre des injonctions contradictoires permanentes et que plus que jamais, il leur faut faire montre d'un sang-froid, je trouve, dans cette époque, et pas simplement chez nous, mais partout. En raison de la prolifération des informations et de leur circulation et de la vitesse, on leur intime de réagir très vite. Donc il faut se départir de cette emprise, de cette pression en permanence pour prendre les bonnes décisions. Donc, à leur décharge, il faut avouer que c'est assez compliqué.
Et d'ailleurs, personne ne présente autre chose. Oui. Et justement, c'est un problème politique, ça, de voir que même si Emmanuel Macron est attaqué, même si la stratégie du Premier ministre est attaquée, aucun des membres de l'opposition ne propose autre chose.
C'est vrai.
Et ça, quelque part, ça explique aussi peut-être la montée.
Je posais tout à l'heure la question à Louis Alliot, qui était notre invité.
On n'entend jamais personne dire voilà, moi, ce que j'aurais commencé par vacciner les jeunes, par exemple.
Voilà, d'autant qu'à l'étranger.
Personne n'a dit ça, ni dans l'Europe entière, personne ne l'a dit.
Parce que tout le monde tâtonne dans le monde entier, ça c'est une certitude. Est-ce qu'en 2021, Jean Garrigue, il peut exister un autre projet que celui de sortir de cette crise ?
Écoutez, c'est quand même ce qu'il y avait en filigrane dans le discours d'Emmanuel Macron il y a 6 mois. C'était l'idée que précisément, je parlais du nouveau chemin, d'un chemin plus éclairé, je dirais. On a bien lu que derrière la crise de la pandémie et les solutions qu'elle pouvait susciter, il y avait un autre monde à créer. Je pense que en termes de relocalisation industrielle, par exemple, ou de développement du télétravail, mais il y a des tas de sujets comme ça, il y a quand même une capacité, si vous voulez, à créer véritablement quelque chose de neuf, peut-être qu'il faudrait faire sentir dans cette intervention justement cette capacité à anticiper vers quelque chose qui nous sorte de la pandémie et qui soit qui corresponde à ce projet, on en parlait au début de notre conversation, de révolution de la société française. Alors évidemment, il faut être très prudent et il y a en plus une élection présidentielle en 2022, ce qui va aussi peser sur la capacité de réforme et pondérer sans doute les intentions présidentielle, mais je veux dire que on voit bien que on est dans un moment historique avec une pandémie de ce type, une pandémie mondiale comme celle-ci, et justement à travers des circonstances de ce type, je pense au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a quelque chose qui peut se refonder, quelque chose qui peut se recréer, et peut-être faudrait-il que on ait en tout cas l'impression dans cette intervention que 2021 ne sera pas simplement la sortie de la pandémie, mais le début de construction de quelque chose de nouveau.
Vous parliez de révolution. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait avant tout une révolution pour l'hôpital, qui dise un mot au personnel soignant qui ont été tellement mis à contribution pendant cette
sûrement,
année terrible.
Il y aura sûrement quelque chose sur les personnels soignants, ne serait-ce que l'annonce qu'ils seront vaccinés à partir de lundi.
Oui. Mais peut-être un peu plus que ça, parce qu'on a vu que l'hôpital a montré quand même énormément de courage, mais que ça ne pourra pas tenir pendant des années dans ces circonstances-là.
Ça, sûrement, surtout si on ne vaccine pas.
Mais ça me surprendrait qu'il n'ait quand même pas un discours très axé sur la protection. Parce qu'on sent que la thématique centrale aujourd'hui, et ce qui est demandé aux États, et là encore pas qu'en France, c'est qu'ils soient protecteurs de leur population. Il est beaucoup sur ce registre-là. Et un État protecteur et un président protecteur autour d'une idée, celle de la nation. C'est celle qu'il a beaucoup développée dans l'entretien qu'il nous a accordé à l'Express ces derniers jours et qui semble effectivement permettre finalement de diffuser cette idée que les Français ont besoin de reprendre possession de leur destin. Donc national, économique, technologique, culturel, et que sortir de la pandémie, c'est aussi ça, c'est aussi se diriger vers cet avenir-là. Donc un avenir plus... Alors, ce n'est pas du repli nationaliste au sens canonique du terme, identitaire, ce n'est pas comme ça qu'il le voit, c'est un patriotisme qui, au contraire, s'intègre dans un espace européen, donc compatible avec une souveraineté européenne. Donc, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas un petit mot autour de cette idée-là aussi, c'est-à-dire un avenir dans cette perspective.
Michel Jotta, je crois qu'effectivement, Jean Garry a raison de dire que peut-être il va beaucoup parler d'avenir, mais si on est à sa place, on se dit quand même que les Français là, ont besoin de protection plus que d'avenir qui chante, parce que si l'avenir ne chante pas, ils le savent. Ils sont pas... Donc... c'est très important, effectivement, de rassurer. Et c'est peut-être plus important aujourd'hui que de dire où on va. Ça fait des années qu'on dit « oui, mais où est le cap ? On ne voit pas le cap, etc. » Je crois que cette fois-ci, le cap, c'est quand même en sortir.
Il y en a qui ont énormément besoin d'être rassurés en ce moment parce qu'ils sont très inquiets. Ce sont les jeunes.
Bien sûr. D'ailleurs, il en parle beaucoup. Il en parle beaucoup dans ses interventions récentes. Il leur a parlé en direct, sur Brut, etc. Mais dans cette interview dans l'Express, ce n'est pas pour particulièrement parler de l'Express, mais il dit aussi que la peur est revenue chez les Français. Donc pour... embrayer sur ce qu'on vient de dire.
L'interview, d'ailleurs, une interview capitale, je peux le dire, puisque vous êtes à l'Express, vous ne pouvez pas le dire. Moi, je peux dire que c'est quand même un texte vraiment très, très intéressant.
Et qui marque un autre Macron.
Et qui montre l'autre Macron. Et sans doute, l'ancien Macron n'existe plus.
Alors ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair qu'on est passé dans un autre...
On est passé à un autre Macron, Jean Garrigue.
Oui, je le pense aussi, et je crois précisément que il ne faut pas, comment dire, opposer l'idée de l'avenir et l'idée de la protection, parce que moi, je pense précisément que ce qui s'est joué dans la pandémie, c'est une sorte de renaissance d'une nouvelle forme d'État-providence, et que l'idée précisément de la protection, mais à tous les sens du terme, que ce soit la protection sociale, la protection sanitaire et la protection sécuritaire, ce sont des thématiques qui aujourd'hui sont majeures et qui sont compatibles justement avec ce que pourrait être le nouveau projet de Macron. Alors ça n'est plus adapter l'État-providence à la mondialisation, c'est adapter l'État-providence justement à la protection. Et je pense que là, c'est un vrai fil conducteur, me semble-t-il, pour ce que veut faire Emmanuel Macron.
Mais c'est vrai que c'est un changement par rapport à l'image du président libéral qui était le produit d'une mondialisation impitoyable. Il faut avouer que ce n'est pas tout à fait le même teneur.
Et alors, cette intervention à la Nation, le soir du 31, est-ce que les Français y accordent une grande importance ?
Généralement,
Michel Cotta.
Généralement, c'est quelque chose d'écouté. C'est presque devenu... effectivement, Jean Garrigue avait raison de rappeler que c'était De Gaulle qui, le premier, avait choisi de s'adresser aux Français le 31 décembre. Mais depuis, il est vrai que ça fait des scores tout à fait étonnants et qu'on a l'impression que le réveillon ne commence qu'après les vœux, même si... peut-être que les enfants ne les écoutent pas avec l'attention.
En même temps, après, c'est quand même la 9e intervention, yeux dans les yeux avec les Français cette année, donc ça va. L'intervention ne fait pas forcément événement.
Et il a toujours fait les records d'audience.
C'est vrai. Mais enfin, ça commence à faire beaucoup.
Il détient les 9/10e des records d'audience, qui est absolument.
Ça commence à faire beaucoup.
Comment ça se passe ? Pardon, je suis en train de m'étouffer. Qui écrit ses vœux présidentiels ? Il a une plume, mais on sait qu'Emmanuel Macron, en particulier, il suit rarement les conseils. En tout cas, c'est toujours lui qui a le dernier mot, non ? Jean Garrigue ?
Oui, oui, tout à fait. Il a d'ailleurs une excellente plume, puisque c'est un ancien étudiant à moi. Mais ça, c'est une autre chose. Mais, enfin, l'une de ses plumes, en tout cas. Mais simplement, oui, il a cette réputation de mettre sa patte sur ce qui a été déjà rédigé, et parfois d'en rajouter un tout petit peu, et pas forcément à bon escient. Donc, il a toujours intérêt, me semble-t-il, à être le plus cursif possible, et à être le plus direct possible, sans mettre peut-être trop d'emphase. Bon, ça, c'est ce que certains lui reprochent, mais en tout cas, c'est un exercice très, très, très compliqué. C'est un rituel, et en même temps, je ne suis pas sûr que ce rituel soit écouté avec beaucoup d'attention par tous les Français. Ce qu'il y a surtout, c'est ne pas commettre d'erreurs. Ça, ce serait vraiment la chose, c'est la plus compliquée le plus compliqué des défis qui lui est posé.
Évidemment. Alors, comment conclure ses vœux présidentiels? Tous les ans, ça se termine toujours par le traditionnel « Bonne année, vive la République, vive la France ». Bonne année, ce soir, ça va être un peu plus compliqué. Comme le disait à sa façon ce matin sur Europe 1, l'humoriste Bertrand Chameroy.
J'aimerais beaucoup être une petite souris pour me faufiler dans les couloirs de l'Élysée en ce moment. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Il va bien galérer pour la conclusion. Très bonne année 2021. Non, ça, je peux pas. Bonne année. Non, trop ambitieux. Année. Moi, ça ne veut rien dire. Comment je vais conclure ma bonne soirée? Bonne chance. Bon courage. Ah là là, pas évident. Ah si, j'ai trouvé. Bonne nuit. Mes chers compatriotes, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà, ça n'engage à rien, ça. Quoi qu'il y ait des insomniaques. Ah si, j'ai bon courage. Voilà, ça c'est sûr. Mes chers compatriotes, du fond du cœur, je vous souhaite bon courage.
Voilà, bon courage ou bonne année. On verra ça dans une heure, tout pile maintenant. En tout cas, cette année, on n'aura aucune excuse pour ne pas suivre ses vœux présidentiels, puisqu'à 20h, couvre-feu, tout le monde à la maison. À l'écoute d'Europe 1, édition spéciale jusqu'à 20h30. Je vous remercie beaucoup, les grandes voix, de m'avoir accompagné ce soir. On vous retrouve en 2021. Merci, bonne année.
Merci.
À très vite, à l'année prochaine.